Alors, on va se courber ensemble dans un mot de prière. Eh bien, éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour cette journée qui commence. Comme on va le voir ensemble dans la Genèse, c'est toi qui es notre Créateur, c'est toi qui soutiens toutes choses et c'est toi qui nous donnes la vie. C'est par toi que nous sommes, c'est par toi que nous continuons d'être, Seigneur. Et si nous avons cette journée devant nous, c'est parce que dans ta grâce, tu l'as désiré ainsi, Seigneur. Et nous voulons t'adorer ce matin en reconnaissant déjà que tu es Dieu et que tu règnes et que nous te devons la vie. Cette journée, nous voulons la vivre pour toi, Seigneur, sous le regard de notre Créateur, celui que nous aimons, celui qui est notre bienfaiteur et qui un jour aussi sera notre juge. On te prie de venir nous faire connaître ta parole ce matin et tes desseins, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, je répète les petits éléments techniques une dernière fois. Vous avez les feuilles de notes sur la petite table là-bas. On va les mettre là chaque dimanche. Vous avez des copies de la semaine dernière, la leçon 1, puisqu'il en manquait la semaine dernière. Vous avez des copies de la leçon 2. Selon le nombre de copies qui va rester, on va s'ajuster sur la quantité de copies à imprimer. Hier, en principe, vous avez reçu en fin d'après-midi, si vous êtes sur la liste d'envoi courriel, vous avez reçu un courriel de ma part avec les leçons 1 et 2. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sera important sur la feuille de présence d'inscrire votre adresse courriel pour que vous soyez ajouté cette semaine à la liste d'envoi. Et je vous demande d'inscrire votre nom, tout le monde ici dans la salle, sur la liste de la feuille de présence. On ne va pas le faire chaque semaine, mais au début de l'année, on doit prendre un peu de statistiques pour envoyer à l'association sur les participations au cours biblique, tout ça. Donc, ça va être utile pour ceux qui doivent donner ces informations-là à l'association, à notre association d'église. Alors, la semaine dernière, on a discuté ensemble de la question « Pourquoi étudier l'Ancien Testament? » On a couvert ce sujet-là. Les premières leçons, je vous avoue, on va rouler passablement. Et puis, on a parlé ensemble de la formation du canon. Alors, je ne prévoyais pas revenir sur ces deux sujets cette semaine. Et cette semaine, on va parler ensemble quel est le message de la Bible, puis quel est le message de l'Ancien Testament en perspective du message global de la Bible, où se situe le message de l'Ancien Testament. Et on devrait couvrir la première partie de la Genèse. La semaine prochaine, on termine Genèse et on fait Exode. D'accord? Puis à un moment donné, on va prendre notre rythme, là. Mais on avait des chapitres d'introduction. Ce cours-là a été monté en 2008 par Alexandre Marquis. Et puis, je trouvais les chapitres d'introduction extrêmement utiles. Alors, j'ai décidé de les conserver. Si vous êtes avec moi à la première page... quelqu'un qui pourrait me dire, c'est quoi l'utilité de faire un survol de la Bible par rapport à étudier chacun des livres de la Bible? Juste une personne, brièvement. Quelle est l'utilité de faire un survol de la Bible par opposition à lire chacun des livres ponctuellement ou un à la fois? Oui, Suzy. Comprendre en quoi tout ça se tient ensemble, d'accord? Alors, la Bible est particulière parce que la Bible a été écrite par une quarantaine d'auteurs différents, sur des centaines d'années, plusieurs siècles, pour la rédaction de la Bible, on parle de 66 livres. Et donc, logiquement, normalement, je devrais dire, bien, on arriverait dans une bibliothèque, puis on aurait des livres écrits par des auteurs différents. Peut-être sur des sujets semblables, hein, si j'étudie en mécanique automobile, je pourrais lire des livres sur la mécanique automobile, puis il y aurait une certaine cohésion à travers tout ça, mais ce ne serait pas nécessairement l'équivalent de chapitres d'un même livre. Comprenez ce que je veux dire? Par opposition à un projet, admettons, où on va avoir des fois des dictionnaires ou des ouvrages encyclopédiques ou des ouvrages de recherche avec plusieurs auteurs. Et là, il va y avoir une dizaine d'auteurs qui vont participer à cet ouvrage-là, mais du point de départ, c'est conçu pour être un ouvrage. Alors, il y a un éditeur en chef qui travaille à la direction de cette équipe-là de rédaction, puis qui dit, regarde, toi, tu vas couvrir tel sujet, toi, tu vas couvrir celui-là, puis lorsqu'on va arriver à la fin, on va avoir quelque chose de complet. Des fois, on va avoir des essais politiques, des essais sociologiques, comme ça, où on essaie de couvrir un sujet. Et il y a un travail d'équipe qui est fait. Puis il y a un rédacteur ou un éditeur qui relie les manuscrits, puis qui dit, oups, c'est un petit peu... Lui se prépare à couvrir ça pas mal, puis oups, même ici, vous semblez être en désaccord. Est-ce qu'on veut exprimer ce désaccord-là là-dedans, tout ça? Mais lorsqu'on arrive avec la Bible, c'est la particularité de la Bible. Il y a un éditeur en chef qui s'appelle le Saint-Esprit, d'accord? Et L'utilité pour nous de faire un survol de la Bible, c'est de comprendre justement quel est le message global de la Bible. Mais on doit garder à l'esprit qu'au départ, on a une quarantaine d'auteurs qui ont écrit 66 livres à des époques différentes. Alors, il n'y a pas eu de meeting, vous comprenez? Il n'y a pas eu de réunion Skype où on dit à travers le temps, l'espace, on se réunit pour dire, toi, tu vas couvrir cet aspect-là de la révélation, Christ apparaît ici comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a fait la réunion Skype en permanence. Ça va? Alors, l'utilité, évidemment, c'est de voir à travers tout ça, à travers l'individualité des livres, la cohésion du message, la révélation de Dieu à travers tout ce livre-là. Parce que ces livres-là, en réalité, n'en forment qu'un. C'est l'histoire de la révélation de Dieu pour les hommes. C'est bon? Quelqu'un qui voudrait s'en regarder les notes, essayer de me résumer en un message, c'est quoi le message de la Bible? On a déjà une réponse ici, là, mais je ne cherche pas de mauvaise réponse, je veux juste... Comment vous résumeriez ça dans vos mots? Quel est le message de la Bible? Pardon? Le salut pour les âmes, OK, c'est un aspect important du message. La révélation de Dieu, oui, OK, oui. C'est Dieu qui se révèle à l'homme, puis dans le Nouveau Testament, on découvre davantage qui est Jésus-Christ. Alors, je vous dirais, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est la Bible? La Bible, c'est une révélation de Dieu. Maintenant, quel est le message que la Bible apporte? C'est définitivement un message de salut, mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire dans un sens un peu plus complet? Mais regardons ce qu'on a ici, puis on peut l'afficher à l'avant. Le message central de la Bible, c'est l'histoire de l'établissement du royaume de Dieu, des cieux sur la terre, de la création à la nouvelle création, par le plan rédempteur accompli en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Longue phrase, on va décortiquer ça vite un peu. C'est l'histoire de l'établissement d'un royaume. D'accord? Toute la notion du royaume, que Dieu est un roi et qu'il vient établir un royaume, le christianisme ne fait pas de sens lorsque je ne saisis pas cela. Ou il va faire un sens qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai. Je vais comprendre le christianisme d'une manière erronée. Par exemple, si je n'ai pas saisi l'idée que l'histoire de la Bible, c'est Dieu qui vient établir un royaume, bien, je pourrais comprendre du christianisme que c'est une manière pour moi d'être heureux fondamentalement. À travers le christianisme, j'apprends comment trouver le bonheur. Ça fait partie du message chrétien. Est-ce que c'est le centre du message chrétien? Non. Non. Le centre du message chrétien, c'est qu'il y a un Dieu qui est un roi et qui règne et qui nous invite à participer, à entrer dans son royaume, à faire partie de son royaume. Ça déplace pas mal le centre. Vous savez, dans un royaume, imaginez un roi avec tout son royaume, le centre du royaume, c'est pas l'individu qui est en train de labourer son champ. Est-ce qu'on est d'accord? La gloire de ce royaume-là, le centre de ce royaume-là, c'est toute la royauté, toute la majesté qui tourne autour du roi. Et donc, comprendre le message central de la Bible, c'est comprendre premièrement que c'est l'histoire de l'établissement du royaume de Dieu. Dieu vient établir son royaume. Royaume existant déjà dans les cieux. Dieu règne de toute éternité. Et il s'en vient l'établir sur la terre. Maintenant, si je veux être global, je parle de la Genèse, puis je m'en vais jusqu'à l'Apocalypse. Je vais parler d'une première création et d'une deuxième création qui va être vraiment la consommation de toutes choses où on va voir ce royaume-là dans toute sa gloire manifestée. Et ça se fait à travers le plan de salut, le plan rédempteur accompli en Jésus-Christ. C'est par ce plan-là que le royaume est établi. Et encore là, c'est vraiment la clé pour comprendre l'ensemble de la Bible. L'œuvre de Christ, c'est par lui que le royaume est établi. On va développer ça au fur et à mesure qu'on va avancer pendant l'année. Alors évidemment, si on parle d'un royaume, on parle de la gloire du roi, la gloire de Dieu. Ce n'est pas centré sur moi. Puis, il y a plein de gens sur la terre qui abordent les Écritures, qui abordent la Bible, qui lisent la Bible, qui n'ont jamais saisi que c'est l'histoire d'un royaume qui est établi, puis je suis invité à participer à ce royaume-là. En fait, si vous pensez à votre quotidien, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous vivez quotidiennement comme des gens qui font partie, qui appartiennent à un royaume, qui sont au service d'un roi, ou est-ce que vous vivez comme des rois qui se sont établis un petit royaume, qui sont desservis par un puissant protecteur, qui est là pour remplir vos ambitions pour votre royaume personnel? Comprenez? C'est très différent. Est-ce que Dieu, c'est votre bouncer qui vous protège pour pouvoir assurer la possibilité de faire tout ce que vous voulez faire? Votre protecteur, votre fournisseur, votre banquier, votre financier qui vient vous appuyer dans l'établissement de votre royaume quotidiennement? Ou est-ce que vous êtes des citoyens de ce royaume-là? Ça change énormément de choses dans mon quotidien, là. Ça change beaucoup de choses. Des questions sur ça? Ça va? OK, c'est bon. Si on voulait le définir en étapes, et c'est utile de le faire parce qu'après ça, on peut placer justement les livres de la Bible à l'intérieur de ces étapes-là. Alors, premièrement, Dieu établit son royaume à travers la création. C'est la première étape de l'établissement de son royaume. Dieu crée un royaume. Ex nihilo, à partir de rien, il crée un royaume. Il y a une rébellion à l'intérieur du royaume. C'est donc la chute en Éden. D'accord? Le roi choisit Israël. C'est le plan rédempteur qui commence. Le roi se choisit un peuple. La venue du roi avec le plan rédempteur qui est accompli en Jésus-Christ. Déjà, là, on arrive dans le Nouveau Testament, d'accord? Fait que si vous essayez de placer les étapes, les trois premières, vous avez l'Ancien Testament, puis whoop, on vient de sauter dans le Nouveau Testament déjà. C'est pour ça qu'on parle du message de toute la Bible. Donc, la venue du roi, le plan rédempteur accompli, la proclamation de la bonne nouvelle du royaume, c'est notre ministère à nous, c'est l'Église. Et enfin, le retour du roi, le plan rédempteur complété lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, à la toute fin. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Si vous avez déjà lu la Bible une fois au complet, déjà les livres peuvent tomber en place avec ce plan-là. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre survol de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament, les choses vont venir se placer là-dedans. Je mentionnais hier, j'étais en train de jaser avec M. Carson hier matin, qui donnait la conférence ici. Et puis, je lui partageais que je me suis lié d'amitié avec un monsieur qui est très brillant, qui a une profession libérale, il est journaliste. Puis, on jase ensemble. Puis, il est très, très, très attiré par Jésus. D'accord? Il trouve Jésus comme un personnage fantastique, un personnage fascinant, avec une grande sagesse, tout ça. Mais chaque fois que j'ai parlé avec lui de la Bible, à un certain moment donné, il laissait tomber une phrase. Il disait: moi, j'aime énormément Jésus, j'aime tout ce qu'il dit, tout ça, c'est super. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis juste pas capable. Puis là, je vais vous épargner les mots qu'il utilisait, mais c'était pour parler de toutes les atrocités que lui voit dans l'Ancien Testament, et il y en a de nombreuses dans l'Ancien Testament. Et en discutant avec lui, j'essayais de lui dire, si tu ne comprends pas comment l'Ancien Testament fait partie de l'histoire, il y a une partie du message de Jésus que tu n'entends jamais. Et comme M. Carson nous l'a rappelé hier matin, il n'y a personne qui parle de l'enfer, de la condamnation éternelle, autant que Jésus-Christ dans toute la Bible. Mais il y a bien des gens qui lisent Jésus, qui lisent les Évangiles et qui n'entendent jamais cela. D'accord? Parce qu'ils font une lecture sélective. Il y a des parties qui sautent, ils s'en vont aux autres parties, ils gardent le reste et ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas l'ensemble. Donc, c'est extrêmement utile pour pouvoir comprendre même ce que Jésus a enseigné, de comprendre ce plan global des Écritures et chacune des étapes et où se situe l'Ancien Testament dans ça. Pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament? Quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi on a un Ancien et un Nouveau Testament. Je sais, là, pour la majorité d'entre vous, c'est des petites révisions, là. Pourquoi est-ce qu'on a l'Ancien et le Nouveau Testament? Juste cette terminologie-là, qu'est-ce que ça représente? Linda? C'est bon? C'est quoi une alliance? C'est un accord entre deux parties. Une entente. Alors, on est dans... entre deux personnes, entre deux parties, exactement. Alors, on retourne dans notre image du royaume, on reste dans ce cadre-là, et anciennement, c'est comme ça que ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'un roi s'établissait sur un royaume, et il y avait une alliance qui était traitée justement entre un empereur, entre un roi et un peuple. Et il y avait des conditions à l'intérieur de cette alliance-là. Le roi devenait le protecteur et les sujets devaient au roi de l'honorer comme étant roi. Et donc, on parle de deux alliances. Pourquoi? Parce que on voit apparaître à un certain moment donné dans l'Ancien Testament la promesse d'une nouvelle alliance. On va regarder deux passages très vite. Dans Jérémie 31, 33, 34. Alors, on est pas mal plus loin, là. On est dans les livres prophétiques. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, alors que Dieu a déjà établi, après l'Exode, après la sortie d'Égypte, Dieu établit une première alliance avec Israël. Là, je reste juste sur l'alliance principale avec Israël et puis la nouvelle alliance. Dieu établit une alliance avec Israël à la sortie d'Égypte, mais quelques siècles plus tard, Dieu commence à parler d'une alliance à venir, une nouvelle alliance qui va être contractée avec Israël même. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on a plus de lumière encore sur cette notion de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, alors que dans l'Ancien Testament, c'était annoncé, c'est accompli dans le Nouveau Testament. Passage dans Hébreux, deux passages, Hébreux 7, 28. « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, donc des pécheurs, des gens qui ne sont pas parfaits. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils, comprendre ici Jésus-Christ, qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Alors, une des choses qu'on va voir en survolant l'Ancien Testament, puis en arrivant dans le Nouveau Testament, c'est que les choses de l'Ancien Testament préfiguraient, annonçaient un moment où les choses seraient vraiment accomplies. Et donc, même le temple dans l'Ancien Testament préfigure un temple parfait, un temple où Dieu est présent, où Dieu lui-même est ce temple. Il est présent lui-même, d'accord? Alors, ces choses-là annonçaient, lorsqu'on arrive dans la lettre aux Hébreux, on est vers la fin du Nouveau Testament. Et donc, ici, l'auteur est en train d'expliquer ces réalités-là. Et nous dit, voici, Christ est, lui, ce sacrificateur parfait. Mais maintenant, il a obtenu un ministère, je continue dans mon passage, d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alors, on a l'Ancien Testament dans lequel on trouve l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance est déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Toutes les bases sont déposées. Et en fait, on voit que toutes ces choses-là étaient faites en vue de cette alliance parfaite qui serait scellée par le sacrifice de Christ, par un sacrificateur et un sacrifice parfait. Et on a le Nouveau Testament qui nous parle de cette, qui nous expose cette Nouvelle Alliance et qui nous invite, nous, à entrer dans cette Nouvelle Alliance. Ancien, Nouveau Testament. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Je sais que c'est vraiment de la révision pour la grande majorité d'entre vous, là, je vous connais. Oui, Gérard. Oui.
C'est-à-dire qu'on sait que la Nouvelle Alliance est supérieure à l'Ancienne, mais pourquoi Dieu a-t-il amené une alliance dans l'Ancien Testament, sachant que l'homme n'a pas trop été capable de lui obéir, comme, entre autres, circonciser vos cœurs. Aujourd'hui, on sait que l'homme ne peut pas circoncier son cœur, c'est Dieu qui le fait.
Oui. Je vais répéter ta question pour que les entendent. Oui, vas-y.
En rencontre plusieurs points, mais en fait, l'Ancien Testament nous prouve que l'homme n'est pas capable d'accomplir la loi de Dieu. Alors que David dit elle est belle, elle est bonne, elle est parfaite, elle est le restaurant. Hein? Et c'est Jésus-Christ qui fait ce travail-là dans le Nouveau Testament. Et là, il y a beaucoup de personnes sont confuses par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament, par rapport à l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu. Et la capacité maintenant en Jésus-Christ.
Oui. Ta question, si je comprends bien, essentiellement, c'est pourquoi est-ce qu'on a toute cette période-là, puis comme une tentative avant d'arriver à ce qui marche? C'est un peu ça ta question? OK. Donc, la question de Gérard, c'est pourquoi est-ce qu'on a l'Ancien Testament, où on a toute cette alliance qui est proposée, qui est là, qui est présente, mais qui n'est pas parfaite, puisque Christ n'est pas venu. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, il y a tout ce délai-là où c'est comme cette tentative de l'être humain. Je vais faire deux commentaires. Premièrement, on est sauvé dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance par la foi. Ça ne change pas du tout. Il y a une réalité qui n'est pas accomplie, c'est vrai. Le Saint-Esprit n'est pas donné de manière permanente aux croyants dans l'Ancienne Alliance. La meilleure réponse, je pense, que je peux te donner, Gérard, à cette question-là, c'est qu'on ne doit jamais oublier que l'histoire de l'humanité, d'accord? Puis je reviendrai sur la déclaration que je vais faire là, je reviendrai en cours d'année, là, mais cette chose-là doit tomber en place dans votre esprit, je dirais, pour être entièrement en paix avec Dieu, puis être des adorateurs qui apprécient davantage ce que Dieu a fait. On ne doit jamais oublier que l'histoire de l'humanité, comme l'histoire de la révélation, l'histoire de la rédemption, c'est une fresque que Dieu fait pour manifester sa gloire. Donc, on ne doit jamais oublier que tout ça, tout ce qui est fait là, avec tout ce que ça inclut comme souffrance, comme horreur, comme délai, comme n'importe quoi, c'est Dieu qui est en train de peindre un tableau pour manifester la gloire de Dieu. Et une fois que ça se place dans mon esprit, il y a beaucoup de pourquoi ces délais-là, pourquoi autant de souffrances, pourquoi il y a des gens qui luttent, là, je discutais avec quelqu'un dernièrement, gros questionnement sur l'élection, puis tout ça, puis il disait, oui, mais tu sais, si Dieu a élu vraiment, puis c'est lui qui a choisi, c'est difficile à accepter parce qu'il y a une injustice. Mais je dis ça, c'est juste le plus petit de tes problèmes, mon ami. J'ai un plus gros problème pour toi. Si Dieu savait d'avance qui allait accepter puis qui allait pas accepter, pourquoi il y en a créé autant qui accepteraient pas? Je veux dire, si Dieu est cruel parce qu'il a choisi, Dieu est aussi cruel d'avoir créé ceux qui savaient d'avance qui accepteraient pas. Puis là, tu as des millions de personnes. Je dois arriver à un point dans ma foi où je reconnais que Dieu est Dieu. Et on part à la bonne place. Ce matin, on est dans la Genèse. Dieu est le créateur de toutes choses et Dieu fait tout pour sa gloire. Dieu est un artiste, c'est Michel-Ange qui est en train de peindre une fresque énorme. Si vous voulez le comprendre un petit peu plus cette semaine, là, prenez le temps d'aller voir des fresques de Michel-Ange. Allez sur Internet, cherchez des tableaux de Michel-Ange. Et vous allez voir que dans une fresque gigantesque, il y a des ondes d'ombre, il y a des ondes de lutte, il y a des ondes de combat, il y a des ondes glorieuses. Et c'est ça l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la gloire de Dieu manifestée à travers la compassion et la grâce de Dieu envers une humanité qui rejette Dieu et qui se rebelle contre lui. Et pour moi, cette période-là de l'Ancien Testament fait partie de ce grand tableau-là, où Dieu vient faire la démonstration de sa grâce envers les hommes et de la rébellion des hommes, de l'incapacité des hommes, même s'ils le voulaient, à être bons par eux-mêmes et de la nécessité pour eux de recevoir l'Esprit. Pour moi, c'est ça l'Ancien Testament, ça fait partie de cette fresque-là. Et lorsqu'on va être dans l'éternité, on va louer Dieu pour la beauté de ce tableau-là. C'est ça qui va se passer pour l'éternité. Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire un commentaire ou une question sur ça très bref? Je sais là, que c'est peut-être gros. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire ou je viens de parler chinois pendant 10 minutes? Ça a-tu l'air? Je sais que des fois, là, je suis comme, ouais, t'es poétique, Yannick. Là. T'es trop artistique pour moi. Là. Oui. Mm-hmm. OK. Oui, je suis d'accord avec ton commentaire. C'est beaucoup plus simple d'aborder les gens à partir du Nouveau Testament qu'en partant dans l'Ancien Testament. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, ce que moi je vous ai exprimé là, ce que je vous ai présenté là, c'est pas quelque chose que je cherche à présenter au départ à un non-croyant. D'accord? Ce que je vous ai dit au départ, c'est si vous voulez être entièrement en paix avec Dieu et avec les desseins de Dieu, avec les plans de Dieu, et si vous voulez... Je vous dirais, là, je vais être mystique, là, atteindre un autre niveau dans votre adoration, il faut apprendre à apprécier la beauté de ce tableau-là avec tous ses éléments. Vous comprenez? Tous ces éléments chaotiques et terribles. Puis honnêtement, naturellement, l'être humain est porté à ça. C'est quoi les films actuellement qui sont les plus comme enlevants? C'est pas juste les films où il y a des amoureux qui courent dans un pré, puis tout est beau, puis ils se mêlent tout le temps. Non, ça prend. Il faut qu'il y ait des revirements, il faut qu'il y ait des moments où on sent que tout ça va s'effondrer, ça va être chaotique. On écoute ces choses-là, on écoute le Seigneur des Anneaux, puis oh, est-ce qu'ils vont l'avoir? C'est ce tableau-là que Dieu dépeint à travers l'histoire de l'humanité. Tolkien, puis C.S. Lewis, lorsqu'ils ont écrit Narnia, puis le Seigneur des Anneaux, étaient très conscients qu'ils étaient en train de reprendre la fresque que Dieu a peint à travers toute l'histoire de l'humanité et qu'il nous raconte à travers la Bible, puis ils le mettaient dans un roman. C'est vraiment ça. Et honnêtement, ce sont ces films-là qui nous transportent. C'est pas lorsque tout est simple. C'est lorsqu'on voit la beauté à travers ce revirement-là où finalement, le bien va l'emporter, la justice va régner, on va sauver ceux qui souffrent. D'accord? Le hic, c'est que de notre côté à nous, de la lorgnette, on se dit, non, mais c'est parce que les trois quarts de ceux qui souffrent, là, c'est tout injuste, il n'y avait pas à souffrir. C'est tout du bon monde. Et naturellement, on s'en va là, vous comprenez? Parce que on est humain, on est pécheur, puis on se dit, oui, mais il y a beaucoup d'innocents qui meurent. Je veux juste vous rassurer, je sais que ça ne rentre pas tout dans votre esprit, puis c'est difficile à accepter, il n'y aura jamais un innocent en enfer. Jamais. Il n'y a pas un innocent qui meurt. C'est pas vrai. D'accord? Ce sont seulement des pécheurs qui vont être damnés. Oui. Il y avait Gérard, il y avait quelqu'un. Après ça, vous, j'avance. Oui.
En fait, avant de venir au Seigneur, on vit un peu les mêmes fresques, les mêmes situations que l'Ancien Testament, l'incapacité de toucher Dieu, l'incapacité d'atteindre cette divinité et ce royaume-là.
Oui.
Et je crois que l'Ancien Testament.
Continue.
Je crois que l'Ancien Testament a été une occasion à démontrer au monde qu'on n'est pas possible d'atteindre Dieu.
Et, oui, c'est ça.
Et la loi nous démontre qu'on est impuissant.
Oui.
Et avant de venir au Seigneur, bien, on a ces mêmes questions-là que David, que tous les mondes de l'Ancien Testament. Et c'est là qu'est la révélation de Christ qui nous dit que approchez-vous de moi.
Dans le fond, ce que je vais juste répéter pour les autres, là, puis ça, c'est la réponse simple. C'est une bonne réponse de prof, c'est vrai, tu as raison. J'aurais pu donner celle-là, ça aurait été plus simple. Mais l'Ancien Testament nous montre qu'avec la loi, on n'arrive pas à s'approcher de Dieu. Puis on a besoin de Christ pour pouvoir marcher avec Dieu. Je pourrais le résumer comme ça.
Ouais.
Et c'est à ça que ça sert, puis ça montre aux non-croyants, puis à nous, que sans Christ, on n'est pas capable de marcher. D'accord? Je t'arrête là. Il y avait quelqu'un d'autre, puis après ça, on avance. Oui. C'est vrai. Je vais répéter pour l'enregistrement. Linda dit qu'elle a toujours trouvé ça fascinant de voir, je vais le résumer dans mes mots, fascinant de voir comment Dieu, à travers la vie d'un peuple, de tous ses déboires, de toutes ses luttes, de tous ses péchés, manifeste dans le fond le cœur de chaque individu, de chaque être humain, de notre lutte avec le péché. Ça ressemble à ça? Merci. OK, alors on avance. Oui. Pardon? Juste brièvement. Dans quel sens? Oui, je suis d'accord. Francis partage que dans son expérience, à lui, l'Ancien Testament, même à travers Israël, qui est rebelle, ça a contribué à voir son propre cœur, puis à quel point lui-même était pécheur comme ce peuple-là. C'est vrai. Puis je pense que si on reculait de 50 ans en arrière, les gens pouvaient lire l'Ancien Testament et l'apprécier beaucoup plus. On vit à une époque où les gens veulent se faire croire que en tout cas, il y a toute une autre définition du bien et du mal, une autre définition de ce que c'est le cœur humain, tout ça. Et ça fait qu'il y a des passages dans la Bible qu'on aborde. Puis même comme chrétien, je veux dire, moi comme pasteur, je parle régulièrement avec des frères et sœurs, tout ça, il y a des parties qui sont difficiles à accepter à cause de notre vision de l'être humain. Pour nous, fondamentalement, même si on est chrétien, puis on veut se dire, non, on est pécheur, dans notre tête, avant tel âge, t'es pas pécheur, dans telle circonstance, t'es pas pécheur. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup de purs. Je sais que vous croyez pas ça. Moi, je vous dis que dans le fond, souvent, vous croyez ça. Puis si on veut être honnête avec nous-mêmes, souvent c'est ça. On se dit non, mais ça, ce sont des innocents, tu sais. J'avance. Au bas de cette page-là, je réalise que je n'ai pas numéroté mes pages. Au bas de la même page où on a les citations dans Hébreux et puis dans Jérémie, On a le message de l'Ancien Testament. Donc, on va essayer de restreindre un peu plus. On parle de quoi lorsqu'on parle du message de l'Ancien Testament? Bien sûr, le récit de l'établissement de l'alliance de Dieu avec l'être humain, plus spécifiquement le peuple d'Israël, et l'application de celle-ci par le peuple d'Israël en vue de préparer le monde à la venue de Christ. Donc, on a une première alliance qui est établie, où Dieu nous montre ce qu'il veut pour les hommes. À travers son amour pour Israël, Dieu montre combien il aime l'être humain et combien il veut faire alliance avec l'être humain. Il veut venir vers nous. On voit comment est-ce que, on l'a dit depuis tout à l'heure, comment l'être humain a de la difficulté à vivre ça. Les standards sont là. Donc, Dieu projette à travers Israël. Regardez comme ça serait beau si on vivait cette loi-là. Ce serait génial. Ce serait extraordinaire. Mais on voit en même temps l'incapacité naturelle de l'homme à vivre par lui-même selon cette loi-là. Et on est en train de préparer la révélation de la nouvelle alliance, cette alliance parfaite en Jésus-Christ. On tourne la page. Structure de l'Ancien Testament. Avant, il fallait juste que je mentionne quelque chose. Vous pourrez relire le paragraphe au haut de la page 15. Je ne sais pas pourquoi la page 15, mais de la page suivante. On a parlé pas mal dans les dernières minutes, mais ça résume plusieurs choses qu'on a dites. La structure de l'Ancien Testament, bien, on découpe l'Ancien Testament en quatre grandes parties généralement. On va parler de la Torah, qui sont les cinq premiers livres de la Bible, les livres de la loi, d'accord? Excusez-moi. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque, c'est la première partie. Lorsque le Nouveau Testament fait référence à cette partie-là, on va parler de la loi, le livre de Moïse. Ce sont toujours ces cinq premiers livres-là. C'est vraiment le fondement. Ici, on dit de l'Ancien Testament. Moi, je vous dirais que c'est le fondement de toute la Bible. D'accord? Parce qu'on découvre dans ça le Dieu créateur. On découvre dans ça la grâce. On découvre dans ça l'alliance que le Dieu créateur veut faire avec l'humanité. On découvre justement comment fonctionne cette alliance-là. Donc, c'est vraiment le fondement. Ensuite de ça, on a les livres historiques. Dans les livres historiques, eh bien, ça nous raconte, ça nous démontre l'application à la vie du peuple d'Israël de cette alliance qui est traitée entre Dieu et les hommes. Et là, c'est chaotique, d'accord? Là, on voit des hauts, des bas, plus de bas que de hauts, tout ça. Mais on voit justement cette incapacité de l'être humain à le faire, puis des moments glorieux où on voit l'être humain en train de suivre cette alliance-là, de respecter cette alliance-là. Et déjà, la grâce est en train d'apparaître à travers la patience que Dieu manifeste. Dieu revient constamment vers son peuple pour le sortir du pétrin. Troisième partie, les livres poétiques, Job, à Cantique des Cantiques. Mais ça nous parle beaucoup du cœur de l'individu. À travers ça, on voit le cœur de Dieu. J'aime le dire comme ça, d'accord? Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça. Moi, je prends les psaumes, je prends toute cette partie-là, et je parle du cœur de l'adorateur. Puis quand je parle des prophètes, je parle du cœur de Dieu. Puis à quelque part, on a un petit peu une relation entre les deux qui est là. Lorsque je veux comprendre c'est quoi un adorateur? C'est quoi quelqu'un qui veut vivre dans cette alliance-là? Personnellement, dans son expérience personnelle au quotidien, je m'en vais vers cette section-là de la sagesse. À travers les proverbes, mais spécialement à travers les psaumes, où on voit justement ce que l'être humain vit dans cette alliance-là, dans ses moments de silence, dans ses moments d'incompréhension, dans ses moments de souffrance, dans ses frustrations, dans ses moments de joie, dans ses moments de foi. Ça, c'est les psaumes. Après, lorsque je m'en vais dans les livres prophétiques, je vois davantage le cœur de Dieu. C'est pas tranché au couteau, d'accord? Dans les livres prophétiques, tu vois des fois le cœur d'adorateur qui apparaît, mais essentiellement, je veux comprendre comment ça se passe dans la tête de Dieu, comment Dieu voit l'humanité, comment Dieu nous voit, comment Dieu considère son peuple. Je m'en vais dans les livres prophétiques, d'accord? Alors, ça peut être une manière pour vous de les comprendre, mais une manière intéressante aussi de les lire. Si pour vous, je sais, il y a des gens à qui les psaumes, ça ne parle pas. Mais tu lis les psaumes pour apprendre à développer une communion avec Dieu. Quelqu'un qui vit une relation intense avec Dieu, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur? Tu lis les psaumes pour ça. Puis quand tu dis, ouais, mais ce Dieu-là me semble tellement loin de moi, tu t'en vas lire les prophètes. On va lire les prophètes et je sais qu'il y a des moments, c'est lourd, c'est dur, mais il y a des moments absolument extraordinaires. Il y a des lettres d'amour extraordinaires dans les prophètes qui sont écrites par Dieu aux hommes. Des moments où c'est touchant, c'est troublant de voir à quel point Dieu nous aime. Tout ce que Dieu est prêt à faire pour nous, parce qu'il veut avoir cette communion avec nous. Et là, tu vas lire les prophètes. Et puis, évidemment, bien, à travers toutes ces sections-là, progressivement, l'annonce de la venue de Christ, la nouvelle alliance, apparaît de plus en plus. Alors, on va le voir beaucoup à travers les livres prophétiques, puisqu'on entre dans la pensée de Dieu. Je m'en vais comme m'asseoir avec Dieu, puis là, les années passent, puis Dieu dit, on va faire quelque chose avec ça, on va faire quelque chose d'autre. Puis là, tu entends Dieu de plus en plus qui en parle, puis qui nous annonce ce qu'il va faire. D'accord? Ça, c'est dans les livres prophétiques. Donc, quatre sections à l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? Une manière de les placer dans votre esprit lorsque vous êtes en train de les lire. Comment est-ce qu'on interprète l'Ancien Testament? Oui, Genèse, je pense que c'est la semaine prochaine. Je vais faire quelque chose. D'accord? Vous avez des numéros 1, 2, allez jusqu'au numéro 4. Parce que si j'avais une petite correction que j'apporterais là-dessus hier, je n'étais pas sûr, mais ce matin, je révisais et je dis, ouais, je commencerai par 4. Ça, pour moi, c'est la première. Comment est-ce que j'interprète l'Ancien Testament avec une approche historico-grammaticale? Ça a l'air du chinois, mais en simple, ce que ça veut dire, c'est que on devrait interpréter l'Ancien Testament, premièrement, comme on interprète n'importe quel livre qu'on lit. D'accord? Et je ne suis pas en train de dire une hérésie, là. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de mal. Il y a beaucoup de personnes qui ont une vision des livres religieux, et c'est vrai dans certains cas, mais ils ont une vision des livres religieux où ils se disent, tu ne peux pas lire ça comme n'importe quel autre livre, ils disent n'importe quoi là-dedans. Puis tu peux l'interpréter de toutes les manières possibles. C'est complètement faux, là, cette affaire-là. Quand j'aborde le journal de la presse, quand je me lève le matin, bien, je sais que je suis en train de prendre un journal, je ne suis pas en train de prendre une encyclopédie, j'ai un contexte, je suis en train de lire le journal de telle date, donc je regarde la date, et je suis en train de lire la presse, donc je suis dans la francophonie. J'ai beaucoup, beaucoup d'informations qui font déjà que, quand j'arrive sur mon premier article, j'ai déjà toute une mise en contexte. Je sais déjà où je m'en vais avec ça. D'accord? Et comme je sais que je ne suis pas en train de lire de la poésie, bien, lorsque c'est écrit « Un homme s'est enlevé la vie », bien, je ne pense pas qu'on est dans une figure de style. Je pense qu'on est dans de l'information pure et dure. D'accord? Et si c'est marqué « L'homme a marché sur la lune », mais je vais me dire, peut-être qu'ils sont vraiment en train de me dire qu'il y a un homme qui a marché sur la lune pour de vrai. D'accord? Je suis pas dans de la poésie encore. Je suis pas en train de me dire, il y a un homme qui est allé décrocher la lune pour l'amour de sa vie. Je suis pas dans de la poésie, je suis dans un journal. C'est la même chose avec la Bible. La première règle, comment est-ce qu'on interprète l'Ancien Testament? On interprète l'Ancien Testament avec notre intelligence. Puis on lit un livre qui a été écrit par des hommes intelligents. Ça, c'est la première chose. Et l'approche historico-grammaticale, ce qu'elle nous dit, c'est bien, il y a un contexte historique où ce livre-là a été écrit. Peut-être qu'il a un genre littéraire particulier, ce livre-là. Quand j'arrive dans les livres de la sagesse, je suis en train de lire des livres de sagesse. C'est un genre littéraire particulier qui va être différent. Lorsque dans les proverbes, il m'est dit que la sagesse est au coin des rues et elle écrit, bien, je suis dans un livre de sagesse, ce qui est un livre plus poétique. Je comprends qu'il n'y avait pas une fille qui s'appelait Sagesse. Le contexte me le dit. Mais si je m'en vais me chercher un recueil de poésie d'Émile Nelligan, je sais que je m'en vais me chercher un recueil de poésie d'Émile Nelligan. Je vais l'aborder comme un recueil de poésie d'Émile Nelligan. D'accord? Donc, je l'aborde naturellement comme ça. C'est la première règle pour lire la Bible. Je me sens de mon gros bon sens, j'arrive dans un livre, puis je regarde. Est-ce que ça a l'air d'un livre historique? Est-ce que ça a l'air d'un livre poétique? Est-ce que ça a l'air d'un livre prophétique? À quelle époque est-ce qui a été écrit? Quels étaient les événements historiques qui étaient en train de se passer à cette époque-là? Et ça, c'est la première chose à dire à des gens lorsqu'ils vous disent « on peut faire dire n'importe quoi à la Bible ». Tu ne peux pas plus faire dire n'importe quoi à la Bible que tu peux le faire au Journal de Montréal. D'accord? Ou tu peux le faire si tu es de mauvaise foi, mais ça, tu peux être de mauvaise foi avec n'importe quoi. Ce n'est pas un livre qui a été écrit avec un langage mystique où tu peux donner n'importe quel sens puis déconstruire des phrases. D'accord? On n'est pas dans la poésie contemporaine, là, où je reste devant une feuille blanche puis à un moment donné, j'ai banane qui me vient en tête. Puis j'écris banane. Puis chaque personne dans la salle ici a le droit de donner le sens qu'il veut à banane. D'accord? On n'est pas là. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre. On a une histoire qui nous est racontée, puis les phrases font du sens. Première règle pour pouvoir interpréter. Et donc, une des choses qu'on va faire à travers toute l'année, c'est qu'on va justement voir quel est le contexte historique. Quel est le genre littéraire? Ces informations-là nous aident à comprendre le livre, nous donnent de l'information sur le livre. Je reviens au point 1. Comment est-ce qu'on doit interpréter la Bible? On doit l'interpréter de manière théologique. Alors, on est dans un traité qui nous révèle des choses sur la personne de Dieu et dans un traité, comme je l'ai dit, qui est composé de 66 livres, mais qui compose en réalité un livre. Alors, je vais chercher des informations historiques dans chacun des livres. Mais j'essaie de comprendre ce que ce livre-là est en train de me faire connaître sur la personne de Dieu et dans sa relation avec les autres livres de la Bible. Ce qui fait que lorsque je vais parler avec un juif qui n'a pas le Nouveau Testament, il y a des éléments vraiment cruciaux de l'Ancien Testament qu'il est incapable de comprendre. Il peut pas les saisir. Alors, il spécule. Quand vous lisez les docteurs juifs de l'Ancien Testament, des fois, ils voient apparaître le Messie souffrant. Puis là, ils commencent à spéculer. Ils disent, c'est là, faut le comprendre. Ils n'ont pas le Nouveau Testament pour le comprendre, donc ils spéculent. Et donc, ils arrivent avec deux Messies, par exemple, trois Messies, quatre Messies. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'interprète de manière théologique, c'est-à-dire, c'est une révélation de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce Dieu-là se révèle progressivement. Puis progressivement, je prends mes notes. Au début, j'ai un Dieu créateur. Première note, Dieu créa. J'ai un créateur. Première information théologique fondamentale pour comprendre toute la Bible. J'avance. OK, il a créé l'être humain. OK, il a créé l'être humain à son image. Information théologique, il crée à l'image de Dieu. Puis j'avance, puis je construis comme ça. Et je pourrais, théoriquement, partir de la Genèse à l'Apocalypse, puis construire toute ma théologie. D'accord? Bon, on fait ça ensemble, puis on étudie la Bible ensemble, puis on s'enrichit de ce que les autres ont compris avant nous. Nous devons l'interpréter au point 2 de façon christologique. Alors évidemment, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament change tout dans notre lecture du Nouveau Testament. J'exagère quand je dis ça change tout, c'est vraiment complémentaire, là. On change pas toute notre lecture de l'Ancien, mais il y a tellement de choses qui deviennent claires que je dois comprendre que la clé centrale d'interprétation de la Bible, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la clé centrale. Tout à l'heure, je vous parlais de ma fresque, là, de mon tableau de Michel-Ange. Là. Bien, enlevez Jésus de cette fresque-là, puis vous avez vraiment juste quelque chose de chaotique et de dur. T'sais, vous avez déjà vu des tableaux, des grands tableaux, des grandes fresques. Là. Enlevez Christ de ce tableau-là, là, c'est noir, c'est chaotique, puis c'est souffrant. Bon, c'est une petite création qui est belle au début, puis... Mais dans cette immense fresque-là, faites apparaître Christ, et c'est là que vous avez toute la lumière. En réalité, quand vous analysez le tableau, là, le peintre, ça c'est le cœur de son tableau. Alors c'est la même chose lorsqu'on veut comprendre l'ensemble des Écritures. Je comprends les Écritures de manière christologique, c'est-à-dire que je cherche la révélation de la personne de Christ à travers ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il est venu accomplir, ce qu'il est venu nous offrir, et je lis toute la Bible comme ça. Et je ne suis pas en train de forcer le texte. Je ne suis pas en train de forcer quelque chose. Maintenant, je pars sur une prémisse. Dans ma tête à moi, Genèse à l'Apocalypse, c'est une révélation qui vient de Dieu. Des fois, si vous allez, y en a qui ont la brillante idée d'aller s'inscrire à un cours de théo à l'université. Ben, le prof de théologie que vous avez à l'université croit probablement pas que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Il croit probablement qu'on est passé de la Genèse. À l'intérieur de Genèse, on a une évolution. On avait au début des polythéistes qui étaient là, qui croyaient dans les Elohim. Puis après ça, leur compréhension a évolué pour croire dans Yahvé, le Dieu. D'accord? Alors, pour eux, là, la Bible, c'est pas de Genèse à l'Apocalypse inspirée par le Saint-Esprit. Là. C'est pas ça. Là. C'est pas ça du tout. C'est une religion qui s'est construite à travers les siècles. Puis les gens ils ont pris le livre d'avant, puis ils ont dit, « Ouais, mais attends un peu, notre pensée a évolué. » Un Dieu qui juge les villes, c'est pas assez. Je pense qu'il faudrait qu'il sacrifie pour nous Jésus. Tiens, Jésus s'est sacrifié pour nous. C'est leur vision. Pour eux, c'est ça. C'est une histoire qui s'est construite et il n'y a pas d'éditeur en chef à travers les siècles. Le Saint-Esprit n'est pas là en train d'éditer, de diriger, d'inspirer. Donc, on lit l'ensemble des Écritures de manière christologique. Vous avez deux citations. Une citation ici dans Luc 24, où Christ est celui vraiment qui nous a donné cette clé-là, qui nous a aidé à comprendre ça. Et si certains d'entre vous vouliez faire des lectures plus précisément sur ça, je pourrais vous diriger vers des bouquins. Il y a des bouquins peut-être de 200-250 pages là, qui sont accessibles, où vous pourriez lire justement pour comprendre où est Christ dans l'ensemble des Écritures. Je pourrais vous diriger vers ça. Nous devons interpréter l'Ancien Testament de façon typologique. Si je m'arrête seulement à l'Ancien Testament, alors dans l'Ancien Testament, il y a par exemple des prophéties explicites sur la venue de Christ, sur la personne de Christ, sur son œuvre, sur les temps à venir, sur la venue, pardon, de l'Esprit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des types. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire c'est quoi des types dans l'Ancien Testament? C'est pas le troisième type. Quelqu'un qui veut me dire ça. Je sais, vous connaissez presque tous ça. Peut-être que vous n'utilisez pas ce mot-là, là, mais vous connaissez ça. Joseph est un type de Christ, oui. Quelqu'un? Pardon? Un personnage qui rappelle Jésus, oui. Quelqu'un qui peut me résumer, c'est quoi un type? Ou donnez-moi d'autres exemples que celui de Joseph qui est bon aussi. On en a qui sont comme forts, là. Melchisédek. Abraham avec Isaac. D'accord? Prenons celui-là, est très, très, très évident. Alors, ce qui se passe là, je veux dire, une fois que tu as lu le Nouveau Testament, tu dis, aïe, aïe, OK, Dieu est en train de nous parler. Pas juste, il n'était pas seulement en train de tester Abraham. Il n'était pas seulement en train d'enseigner à Abraham c'est quoi marcher par la foi. Ce n'était pas seulement ça qui est en train de se passer. Il est en train de nous parler de ce qu'il allait faire lui, par exemple. D'accord? Et donc, ça, c'est un type. Ce sont des moments d'histoire où, sans nécessairement que le texte lui-même nous dise, en passant, il y a une figure de Christ ici, là, dans ce texte-là. Ce n'est pas mentionné. Mais à travers ça, lorsque tu lis l'ensemble des Écritures, soit que le Nouveau Testament te dit littéralement, c'était un type, ça préfigurait, ça m'annonçait, ou soit que tu le lis et tu te dis, mais c'est impossible de le voir, de ne pas voir Christ là-dedans et son œuvre. Alors ça, ce sont des types, d'accord? Et c'est une des manières, on appelle ça de la typologie, c'est une des manières de voir Christ apparaître dans l'Ancien Testament. Et ça vient enrichir notre compréhension de son œuvre, de son amour. Comprendre le test qui est passé à Abraham, avec Isaac, à la lumière de la croix, ça change beaucoup de choses dans notre compréhension du passage. Et ça vient éclairer énormément notre adoration, ça vient alimenter notre adoration. Tu retournes là, puis tu es inspiré encore à adorer Christ pour ce qu'il a fait, adorer Dieu. Est-ce que vous avez des questions sur comment on interprète l'Ancien Testament? Pas de questions. Antonio, je n'ai pas rien dit de faux à date. Tout est vrai, c'est bon. Genèse, on va commencer Genèse. On va vraiment introduire Genèse. D'accord? Laissez-moi commencer en vous lisant le premier verset. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qui se passe avec la Bible? Si on enlève ce verset-là de la Bible, qu'est-ce que ça change dans le récit? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer tout d'un coup si on n'avait pas ça? On n'avait pas les deux premiers chapitres de la Bible. C'est un point de repère, oui. Plus que ça encore, David? Oui. Oui. On pourrait adopter, par exemple, une compréhension comme l'évolution de l'origine de l'homme. Plus fondamentalement que ça, et soit dit en passant, M. Carson a fait un travail extraordinaire le premier soir de la conférence, là, deux semaines. Donc, quand ça sortira au printemps, si vous pouvez l'écouter, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. En passant, la conférence de M. Carson, c'est tout dans un livre en anglais qui s'appelle The God Who Is There, si jamais il y en a qui veulent le lire. Mais ça nous pousse dans l'adoration, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Le premier verset de la Bible nous dit que tout dépend de Dieu. D'accord? Il n'y a rien qui existe de ce qui nous préoccupe, nous, là, de l'humanité, de l'univers tel qu'on le connaît, à l'extérieur de Dieu. Dieu était, il n'y avait rien d'autre de tout ce que nous on connaît, puis Dieu a créé. Alors, quand je m'en vais vers mon voisin, par exemple, puis que je me dis, « Ah, oh, faudrait que je parle du Seigneur, mais il ne comprendra pas, c'est tellement loin, je vais parler d'un Dieu qui pourrait le juger, puis tout ça. » Puis, « Ah, il faut qu'il soit pardonné, mais il ne sait même pas qu'il est pécheur. » En réalité, la personne qui décide de vivre sans Dieu est en train de décider de vivre sans la personne qui a créé toute chose, qui soutient toute chose. Les gens qui décident de vivre sans Dieu, c'est un robot électrique, c'est une cafetière qui décide de fonctionner sans se brancher dans le mur. D'accord? Parce que Dieu, avant Dieu, il y a juste Dieu, il n'y a rien d'autre. Et Dieu décide qu'il crée la vie, qu'il crée l'univers. Avant ça, il n'y a rien. Et après lui, il n'y a rien. Après Dieu, il n'y a rien. Si Dieu décide que ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Alors, c'est fondamental. Là. Lorsqu'on parle que le message de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui vient établir son royaume, ce Dieu-là commence en établissant son royaume, pas en allant faire la conquête d'un autre royaume. Comprenez, c'est pas Israël là, qui s'en vient en Canaan puis qui dit ils ont construit des maisons, ils ont développé des champs, ils ont fait des aqueducs, ils ont fait des routes. Yeah! On tue tout le monde puis on s'installe. C'est pas ça, là. C'est pas du tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie autre que Dieu et Dieu crée. Et lorsque je décide de vivre sans Dieu, c'est simple, je suis cette cafetière qui décide de tirer sur le fil. Puis dit j'ai pas besoin de toi. C'est beau. C'est détaché de la vie, c'est tout. Parce que Dieu crée et soutient toutes choses. Et à l'extérieur de lui, il n'y a rien. Lorsque je vais annoncer l'Évangile à des gens autour de moi et que je leur parle de Dieu, j'essaie juste de les aider à comprendre qui ils sont, où ils sont, dans quel univers ils vivent. J'essaie de les aider à comprendre c'est quoi la vie, tout simplement. Parce qu'hors de Dieu, il n'y en a pas de sens. Je peux m'en donner. Je peux fabuler sur toutes sortes de sens. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, Dieu est et Dieu crée. Et ça, c'est le fondement de toute la Bible au complet. Dieu est à l'extérieur de toutes choses et Dieu crée. Et à l'extérieur de lui, il n'y a rien qui existe. Le thème de l'ensemble du livre de la Genèse, c'est l'origine de la création de la race humaine, des différentes nations du monde, et plus particulièrement la création du peuple de Dieu avec qui il fait une alliance. Ça, ce serait le thème tel qu'on pourrait le résumer dans son ensemble. D'accord? On prend 2 minutes pour parler de l'auteur, et puis la semaine prochaine, on rentre plus dans la Genèse. Je veux juste vous mentionner aussi. OK, ça, il ne fallait pas que j'oublie de vous mentionner ça. Si vous allez à la dernière page du document, chaque fois qu'on va aborder des livres bibliques, on vous offre 2 options. Ceux qui sont zélés, vous voulez passer à travers le livre, c'est parce qu'il y a des livres qui sont un peu longs là, quand même dans l'Ancien Testament. Vous voulez passer à travers le livre en une semaine, vous avez un plan de lecture, tant de chapitres par jour, vous passez à travers le livre, vous arrivez le dimanche suivant, boum, j'ai lu mon livre. Autrement, on vous offre les passages principaux à lire. D'accord? Alors ça, c'est à la dernière page. La semaine prochaine, on va être dans Genèse. Je vais vous encourager à prendre le temps de lire les passages principaux, parce qu'on va parler de plusieurs d'entre eux. Ça va? On revient sur l'auteur... de la Genèse. Généralement, chez ceux qui reconnaissent la Bible comme un livre inspiré de Dieu, généralement, il n'y a pas beaucoup de discussions. Les gens reconnaissent Moïse comme étant l'auteur du Pentateuque au complet. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour différentes raisons, pour des raisons externes, on conclut ça, puis pour des raisons internes même à la Bible. Alors, les Juifs le voient comme ça, les chrétiens le voient comme ça depuis toujours, même si le livre ne commence pas d'une manière, comme nous on verrait, écrit par Moïse, tu sais, par exemple. Pardon? Exact, tu n'as pas l'introduction que tu vas avoir, admettons, pour les lettres de Paul. Exactement. Alors, on n'a pas cette information-là au départ. Maintenant, on va voir quelques éléments ensemble. Cette idée-là que Moïse est l'auteur du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, a commencé à être remis en question avec l'avènement des Lumières, toute l'époque du rationalisme. Et puis là, on a commencé à se poser des questions, mais si ce n'était pas Moïse, qui aurait pu écrire ces livres-là? Et puis là, on a commencé à développer des théories. Ces théories-là se sont rendues aussi loin que dire, par exemple, on va étudier le vocabulaire utilisé. Vous savez, lorsqu'on parle, on a des vocabulaires différents. Quand vous écoutez des prédicateurs, je vais me donner un exemple, vous écoutez des prédicateurs, vous dites, lui, il a toujours des mots à 30$, puis lui, il est plus compréhensible, il a toujours des mots à 5$, puis sa voix, on le suit. D'accord? Il y a des mots que certains servent, puis d'autres ne se servent pas. On a une manière de phraser nos phrases, notre langage, tout ça. Alors, ils sont allés jusqu'à étudier, puis dire, bon, bien, dans cette première section-là de la Genèse, les mots qui reviennent le plus souvent sont ceux-là, puis ici, on voit commencer à apparaître d'autres mots qui étaient moins présents là, donc on a probablement un nouvel auteur qui vient d'apparaître ici, d'accord? Toutes ces approches-là sont hautement spéculatives. Pendant environ 1 siècle et demi, ça fait couler beaucoup d'encre, et, bon, c'est étrange comment ça fonctionne, la recherche jusqu'à la pensée populaire dans la société. Mais voilà environ 50, 60, 70 ans, dans les milieux de recherche, ces théories-là étaient encore intéressantes puis reconnues. Et aujourd'hui, tout ça est remis en question, puis ils disent non, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas être aussi simple que ça, même chez les gens qui ne croient pas que la Bible est inspirée de Dieu, d'accord? Maintenant, vous savez comment ça fonctionne, la recherche. Entre le moment où quelque chose au niveau de la pensée, de la recherche sur la sociologie, la philosophie, l'analyse de l'histoire, l'étude de l'histoire, tout ça, entre le moment où une théorie sort, puis ça se communique en général dans la population, vous avez une période facilement de 50 ans entre les deux. Parce que la recherche se fait, ça se discute dans des milieux très fermés, ça commence à être publié. Oups, il y a des vulgarisateurs qui commencent à récupérer ça. Oups, les médias commencent à vulgariser ce que les vulgarisateurs ont fait. Puis là, tu arrives avec quelque chose comme, ouais, ça a été écrit par plein d'hommes à travers les siècles, puis on n'a rien, puis on n'a aucune preuve. Puis finalement, c'est les Elohim qui sont là dans l'Ancien Testament. T'sais. Ces théories-là ne sont plus respectées du tout aujourd'hui dans les milieux de recherche, ni par ceux qui croient dans l'inspiration des Écritures, ni par ceux qui n'y croient pas. D'accord? Ils ne voient pas ça comme des théories qui se défendent. Alors, on a un dilemme, et généralement, dans le christianisme, on va attribuer à Moïse ces cinq premiers livres-là. Entre autres, parce qu'on a des indices dans les textes eux-mêmes qu'ils devaient être écrits et que Moïse en a écrit des parties. Ça, c'est assez clair. Il y a des parties qui ont été écrites par Moïse. C'est dit dans le texte lui-même. Je vais juste survoler les arguments ici parce que je dois m'arrêter. Le reste de l'Ancien Testament attribue le Pentateuque à Moïse. Donc, c'est ce qu'on voit dans les passages directement. Et le Nouveau Testament attribue à quelques reprises le Pentateuque à Moïse. D'accord? Alors, pour nous, c'est des arguments qui tiennent puisque on estime que la Bible est inspirée de Dieu. Vous pourrez prendre le temps de lire les arguments internes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer bien Moïse, sa culture, sa formation, là où il a été élevé lui-même, donc sa connaissance de l'écriture, sa capacité à pouvoir rédiger, mais ses connaissances aussi du milieu égyptien, ses méconnaissances sur le pays de Canaan, par exemple, et ça transparaît, il y a des choses qu'il ne sait pas. S'il avait vécu là-bas, si ça avait été écrit plus tard par quelqu'un qui avait vécu là-bas, il aurait pu donner plus d'informations sur ce pays-là, ce qui n'est pas le cas ici. Et on va s'arrêter ici. On va terminer avec un mot de prière. La semaine prochaine, on plonge vraiment dans Genèse. Éternel notre Dieu, je veux te remercier pour ce temps, Seigneur, à placer des choses. On n'est pas directement dans les textes bibliques beaucoup encore, mais en même temps, Seigneur, on est en train de dépeindre cette fresque extraordinaire que toi, tu es en train de réaliser, Seigneur. Et c'est cette fresque glorieuse qui va être au cœur de notre adoration pour l'éternité. Et ma prière, Père, c'est qu'à travers le survol de toute la Bible, ce tableau-là devienne de plus en plus clair et que la beauté, les subtilités de cette œuvre que l'artiste, toi, Seigneur, tu fais, deviennent de plus en plus appréciables pour nous. Afin, Seigneur, que partout où nous nous promenons dans la Bible, dans des moments des fois crus, violent, difficile à comprendre et à accepter, que ces choses-là fassent de plus en plus de sens dans notre esprit, non seulement logiquement, mais Seigneur, que ça devienne même un objet pour nous d'adoration et de reconnaissance de toute ta beauté, de ce que tu es, Seigneur. Et je te prie de répondre à cette prière tout au long de l'année, afin que nous grandissions comme adorateurs, Seigneur, et dans notre appréciation, notre compréhension de ta parole. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.